Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Art3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 2017 et proposé dans la collection Agora. Le mythe de la virilité est un essai philosophique et historique dans lequel Olivia Gazalet examine la fabrication sociale de la supériorité masculine. Son objet ne consiste pas à décrire une essence éternelle des hommes, mais à interroger un idéal de virilité associé à la puissance, à la guerre, à la maîtrise sexuelle et au refus de tout ce qui est codé féminin. L'auteur soutient que cet idéal a servi à organiser une hiérarchie entre les sexes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes, en mobilisant des références issues de la philosophie. Des religions, de la culture, de la politique et de la pensée scientifique, elle retrace la longue légitimation de cette hiérarchie. Le livre propose ainsi une critique du virilisme comme système de domination et comme contrainte intime. Son ambition est de penser une transformation conjointe des rapports entre femmes et hommes sans réduire la question de l'égalité à une opposition simplifiée entre les deux sexes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la virilité comme construction culturelle plutôt que comme donnée naturelle. La thèse directrice du livre est que la virilité ne doit pas être confondue avec le fait biologique de naître homme. Elle désigne un idéal socialement produit qui valorise la force, le contrôle, la compétition, la conquête et la distance envers la vulnérabilité. Cette distinction est décisive si la virilité était une propriété naturelle et inévitable. Elle échapperait largement à la critique. En la présentant comme une construction historique, Olivia Gazalet montre au contraire que ses contenus ont été définis, transmis et justifiés par des institutions et des récits. Mythes, doctrines philosophiques, normes religieuses et discours savants ont contribué à donner une apparence de nécessité à une organisation sociale contingente. Le mot « mythe » ne signifie donc pas ici simple illusion sans effet. Il désigne un récit puissant, capable de modeler les attentes collectives et les conduites individuelles. Le garçon est invité à prouver sa valeur en se séparant du féminin et en affichant une forme de dureté, tandis que la femme est renvoyée vers une position supposée complémentaire mais subordonnée. Cette grille aide à comprendre pourquoi certaines normes persistent, même lorsque les droits formels progressent. Elle déplace enfin le débat, il ne porte pas sur la négation des différences corporelles, mais sur le refus de transformer ces différences en destin social et moral. Deuxièmement, une hiérarchie des sexes soutenue par des récits de supériorité masculine. Gazalet analyse la manière dont la domination masculine a été rendue pensable et légitime au fil de l'histoire. L'enjeu est moins de présenter une chronologie exhaustive que de révéler des mécanismes récurrents de justification. Des traditions intellectuelles, religieuses et politiques ont souvent associé le masculin à la raison, à l'autorité et à la capacité de gouverner, tandis que le féminin était rapproché du corps, de la passivité ou de la dépendance. Ces oppositions ont facilité la répartition inégale des pouvoirs dans la famille, la cité, le travail et la sexualité. Le livre insiste sur le fait que ces représentations ne restent pas au niveau des idées, elles organisent des droits, des rôles et des jugements. Une hiérarchie symbolique peut ainsi préparer ou normaliser des inégalités concrètes. Cette perspective évite de réduire le sexisme à des attitudes individuelles isolées. Il est aussi un cadre culturel qui rend certaines attentes immédiatement plausibles autorité masculine, disponibilité féminine, valorisation de la domination ou disqualification de la parole des femmes. La force de cet examen réside dans son attention au lien entre système de pensée et organisation sociale. Il invite à considérer les inégalités de genre comme des réalités historiquement produites, donc susceptibles de changer, plutôt que comme les conséquences automatiques de tempéraments immuables. Troisièmement, le coût du devoir de virilité pour les hommes eux-mêmes. Une originalité importante de cet essai est de ne pas traiter la virilité uniquement comme un privilège accordé aux hommes. Olivia Gazalet montre que le modèle viriliste confère bien une position dominante à certains hommes, mais impose aussi une discipline coûteuse à ceux qui doivent sans cesse en faire la preuve. Devenir un homme implique alors de démontrer courage, autonomie, puissance et contrôle de soi, en réprimant la peur, la tristesse, la dépendance ou la tendresse lorsqu'elles sont assimilées au féminin. Le coût est social et affectif, celui qui ne correspond pas aux normes prescrites peut être dévalorisé, soupçonné de faiblesse ou exclu du groupe masculin. Le système établit également des hiérarchies entre hommes. L'étranger, le supposé faible, le non-conforme ou celui dont la sexualité est stigmatisée peuvent être placés du côté de ce que la norme virile rejette. Cette analyse ne met pas sur le même plan les effets de la domination subie par les femmes et les contraintes vécues par les hommes. Elle établit plutôt que le même ordre viriliste produit plusieurs formes de violence et de dévalorisation. Comprendre cette double logique permet de sortir du faux choix entre féminisme et prise en compte du malaise masculin. La critique de la virilité peut devenir une ressource pour élargir les possibilités relationnelles et émotionnelles offertes aux hommes sans restaurer leurs anciens privilèges. Quatrièmement, La violence et la toute-puissance comme normes politiques et sexuelles, le livre relie le mythe de la virilité à une valorisation de la toute-puissance guerrière, politique et sexuelle. Dans ce cadre, la force ne constitue pas seulement une capacité ponctuelle de protection ou de résistance, elle devient un signe de valeur personnelle et un principe de classement. La guerre, la conquête et la maîtrise des corps peuvent alors être investis comme preuve de masculinité. Cette association aide à éclairer la persistance de certains imaginaires où dominer vaut davantage que coopérer, où céder équivaut à perdre, et où la sexualité masculine est pensée à partir de la prise plutôt que de la réciprocité. Ghazaleh ne prétend pas que tout homme violent obéit mécaniquement à une idée unique de la virilité. Son analyse porte sur le rôle des représentations collectives qui rendent certains comportements plus valorisés, plus excusables ou plus difficiles à contester. La question devient alors politique autant que morale: quelles institutions, quels récits et quelles pratiques entretiennent le prestige de la puissance sans limite. En examinant ce lien, l'essai refuse une vision superficielle de la crise de la virilité, souvent comprise comme une perte regrettable de repères. Il suggère, au contraire, que la remise en cause du culte de la domination peut constituer un progrès, à condition de développer des modèles de responsabilité, de consentement, de solidarité et de puissance non prédatrice. En dernier lieu, réinventer les masculinités pour approfondir le projet féministe. La conclusion intellectuelle de Ghazaleh est tournée vers une sortie du modèle viriliste, non vers une guerre des sexes, ni vers une simple inversion des rapports de pouvoir. Elle envisage la déconstruction de la toute-puissance masculine comme une condition de relation plus libre et plus égalitaire. Cette orientation donne au livre une place particulière dans les débats sur le féminisme. La libération des femmes ne peut être pleinement pensée sans transformation des normes qui enferment aussi les hommes dans un rôle étroit. Réinventer les masculinités signifie donc dissocier le fait masculin de la domination, de la dureté obligatoire et du mépris du féminin. Cela suppose de reconnaître une pluralité de manières de vivre son identité, ses émotions, son corps et ses relations. Le propos ne demande pas aux individus de devenir indifférenciés, ni de nier toute expérience sexuée. Il met en cause la conversion de différences réelles ou imaginées en rang sociaux fixes. Cette nuance est essentielle face au discours qui présente toute critique du virilisme comme une attaque contre les hommes. Pour Ghazaleh, le véritable enjeu est de réduire les coûts humains du système violence envers les femmes, compétition et humiliation entre hommes, dévalorisation de la vulnérabilité, limitation des aspirations personnelles. L'essai propose ainsi un horizon de désassignation des rôles, où l'égalité se mesure autant par la redistribution du pouvoir que par l'élargissement des façons légitimes de vivre. En conclusion, le mythe de la virilité conviendra aux lecteurs et lectrices qui cherchent une réflexion de fond sur les rapports de genre, la domination masculine et les normes imposées aux hommes. Il intéressera particulièrement les personnes venues de la philosophie, des sciences humaines, de l'éducation, du travail social ou des débats féministes, mais demeure utile à quiconque souhaite comprendre les racines culturelles de certains comportements contemporains. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir une grille de lecture historique. Les rôles sexués ne sont pas présentés comme des évidences naturelles, mais comme des constructions soutenues par des récits, des institutions et des rapports de pouvoir. Cette grille peut aider à analyser avec plus de précision les attentes familiales, scolaires, professionnelles ou affectives liées au masculin et au féminin, par rapport à des essais centrés uniquement sur les violences faites aux femmes ou, à l'inverse, uniquement sur le malaise des hommes. Le livre se distingue par son articulation des deux dimensions. Il examine la virilité comme un dispositif qui favorise une hiérarchie au détriment des femmes, tout en soumettant les hommes à une obligation de dureté et de performance. Cette position ne gomme pas les asymétries de pouvoir, mais rend visible la complexité du système, dense et très documentée, parfois ambitieux par l'étendue de ses références. Cet essai se distingue surtout par sa volonté de faire de la transformation des masculinités un élément central, et non périphérique, du projet égalitaire. Si vous souhaitez soutenir Olivia Ghazaleh, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.